Les rendez-vous de Bernard Roth, Senior Advisor IEIF et membre de l'Académie d'architecture.
Nous enregistrons cet entretien en février 2022. Et je me suis demandé ce qui se passait il y a 100 ans. Alors, il se passait plein de choses, évidemment, en février 1922, mais une des choses que j'ai trouvées intéressantes par rapport à mon invité du jour, c'est que la Tour Eiffel, qui lui est chère, retransmettait le premier bulletin météorologique sur les ondes de la TSF. C'était à peu près une heure après l'observation sur site, alors qu'auparavant c'était de l'ordre de 4 à 5 heures. Et après tout, est-ce que ça change tout de gagner 3 heures? Il y a au moins un domaine dans lequel ça change tout, évidemment, c'est l'aviation. Et pour les 6 compagnies aériennes qui transportaient des passagers, c'est un progrès absolument considérable. Et ce changement dans la modernité, et puis aussi ce nouveau mode de transport, qui va évidemment connaître une expansion extraordinaire et qui va progressivement essayer de prendre le pas sur le chemin de fer, me conduit à accueillir Bertrand Lemoine à propos de son Histoire des gares, qui est une somme de 400 pages absolument fascinante. Bertrand Lemoine est ingénieur, polytechnicien, École nationale des ponts et chaussées, il est architecte, il est historien, il a été président de l'Académie d'architecture jusqu'à une période très récente, il est directeur de recherche honoraire au CNRS, et encore beaucoup d'autres choses. C'est un spécialiste de l'histoire et de l'actualité de l'architecture et de la construction, tout particulièrement métallique. C'est un spécialiste du patrimoine et de la ville, ainsi que des questions énergétiques et numériques. Moi, j'ai compté 43 ouvrages avant, écrits de sa main avant l'histoire des gares en France, dont un en 1987, Paris, l'architecture des années 30, coécrit avec Philippe Rivoirard, que je cite et auquel je suis particulièrement sensible pour des raisons personnelles, parce que c'est un des ouvrages, mais à vrai dire, je crois que c'est le premier qui m'a fait basculer dans l'architecture et qui m'a donné envie d'en savoir infiniment plus. Bertrand Lemoine, bonjour.
Bonjour.
Alors, j'ai compris à la lecture de partie, au pluriel, de cet ouvrage, que en France, en 1938, on avait près de 5000 gares, sans compter les haltes, pour un réseau de l'ordre de 65 000 km, et qu'aujourd'hui, on n'en a plus que 3 000, et à peu près 27 000, au lieu de 65, en service. Alors, ma première question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des grandes étapes? Est-ce qu'on peut au moins séquencer, peut-être dans les 15 minutes qui nous sont réservées, en quelques étapes dont je te laisse le choix?
Oui, donc bonjour à toutes et à tous. L'histoire des gares, elle est absolument fascinante, effectivement, parce qu'elle couvre deux siècles, quasiment deux siècles de notre histoire récente, et elle nous accompagne, en fait, ces gares, dans le développement à la fois technique, bien sûr, économique, urbain, territorial, et elles changent aussi, elles accompagnent nos changements de nos modes de vie. Et les gares, en fait, dans les années 1930, en 38, quand on va nationaliser le 1er janvier 38, créer la SNCF comme Société Nationale des Chemins de Fer Français, en rassemblant les compagnies privées qui avaient présidé au développement des chemins de fer en France, eh bien, on est à l'apogée ou déjà même au début du déclin de ce réseau incroyable qui est né dans les années 1830, à la fin des années 1830, avant en Angleterre, déjà dès les années 1800, qui est né comme un réseau d'abord de transport de marchandises sur des petites distances entre Andrézieux, par exemple, et Saint-Étienne, ou entre autour des mines d'Alès, par exemple. Et donc, il a été assez vite transformé aussi en réseau mixte marchandises et voyageurs. Et donc, avec l'apparition des premiers, ce qu'on appelait les embarcadères, par analogie avec les canaux, où on embarquait dans ces trains, tirés par des chevaux au départ d'ailleurs, et ensuite par des machines à vapeur, bien sûr, très rapidement. Et ce réseau va très rapidement innerver le territoire à partir d'ailleurs d'un schéma initial assez un peu technocratique, hein, conçu par l'État, une sorte d'étoile ferroviaire avec des grandes lignes convergent ou divergent à partir d'un centre qui était évidemment Paris et qui vont progressivement irriguer le territoire avec la grande transversale tout de même de Bordeaux, Marseille en passant par Toulouse. Donc ce réseau qui définit cette étoile se met en place très vite avec une première gare ouverte aux voyageurs qui est la gare de Saint-Germain, du chemin de fer de Saint-Germain, qui est un petit chemin de fer, un chemin de fer en fait touristique pour aller à Saint-Germain le week-end, et en 1837. Et à partir de cela, va très rapidement se développer, déjà dans les années 1840, par des compagnies privées sous régime de concession, des compagnies se partagent en quelque sorte le territoire, c'est l'État qui préside à ça. Elles ont donc des obligations, mais en même temps des avantages, des garanties d'intérêt par exemple, voire des subventions. Elles ont des obligations comme le tarif des billets, qui est contrôlé par l'État, etc. Et tout un tas de règles de sécurité qui sont imposées aux compagnies. Mais très vite, le réseau va se développer sous le Second Empire, puis après.
Et ce sont ces concessionnaires qui investissent le réseau, ou est-ce qu'ils ne se chargent que de l'exploitation ?
Alors, il y a un régime un peu mixte au départ. Certaines lignes sont faites par l'État, en fait, financées en tous les cas, et d'ailleurs avec des ingénieurs des ponts et chaussées, donc ingénieurs de l'État qui président à leur construction. Mais très vite, les compagnies reprennent la main, développent les grandes lignes, puis un peu sous la pression d'ailleurs politique de l'État, des collectivités territoriales qui veulent chacune, chaque petite ville veut sa gare, le réseau se ramifie, y compris avec ce qu'on appelle un second réseau, puis un troisième réseau, y compris des réseaux d'intérêt locaux et des petits chemins de fer à voie étroite, à 1 mètre de large au lieu d'1 mètre 43. Et petit à petit, ça va innerver l'ensemble du territoire français. Et quand on arrive dans les années 20-30, on est vraiment à l'apogée de ce réseau qui dessert toutes les sous-préfectures, y compris des villages. On voit encore des traces d'ailleurs de ces petites lignes anciennes, soit la plateforme qui existe, transformée parfois en piste cyclable, ou des gares désaffectées, puisqu'effectivement, sur les 5000 gares environ qui ont été construites, 3000 aujourd'hui sont actives, 2000 ont été vendues, voire démolies, ou réaffectées à d'autres usages. Et donc on a cette croissance très rapide du réseau. Aujourd'hui, après la fermeture d'un certain nombre de petites lignes jugées non rentables par les grandes compagnies d'ailleurs dans les années 1900, ce qui a conduit d'ailleurs à la nationalisation de la SNCF parce que toutes les compagnies étaient plus ou moins faillites à cause de ce réseau secondaire pas très viable. Aujourd'hui, bon, ce réseau local est en partie soutenu bien sûr par les régions, mais aujourd'hui on est revenu pratiquement au réseau qui existait dans les années 1875-1880. Avec, bien sûr, le TGV en plus. Et le TGV a entraîné une véritable révolution dans le transport des passagers, bien sûr. C'était un choix délibéré, peut-être qu'il a d'ailleurs s'est fait au détriment du transport du fret, mais qui, en tous les cas, était un choix assumé et un grand succès, bien sûr, à la fois technique, mais en même temps comme mode de transport. Le TGV, dont on inaugure encore des lignes aujourd'hui, et des lignes encore en projet, Bordeaux-Toulouse, hein, à l'étude, il va tout à fait modifier la géographie de la France. Il va rétrécir, en quelque sorte, la France en rapprochant les lignes, pas seulement qui sont sur les villes qui sont sur la ligne du TGV, mais les villes qui sont à proximité, parce que le TGV peut sortir de ces voies rapides, bien sûr, spécialement dédiées pour lui, qui sont venus se rajouter, se superposer au réseau existant, pour justement emprunter un réseau existant et desservir un grand nombre de destinations aujourd'hui.
Saint-Malo, je cite un exemple qui me passe par la tête.
Voilà, le TGV se débranche, comme on dit, il sort de sa ligne, il roule à grande vitesse sur la ligne dédiée, et ensuite à moyenne vitesse, disons, sur les lignes normales. Et ça permet de, pratiquement, sur tout le territoire, il y a quelques points, un peu le centre du Massif central, une partie des Pyrénées, qui sont moins bien desservies, on va dire, mais en tous les cas, qui a permis de véritablement transformer cette géographie française et de mettre à la grande vitesse, de permettre l'accès à la grande vitesse de tout le monde. Pas seulement par l'avion, qui est un mode de transport un peu compliqué, un peu coûteux. Le TGV a apporté la grande vitesse à tout le monde, comme le chemin de fer, en son temps, avait apporté la mobilité à toutes les campagnes, et a sans doute d'ailleurs ralenti l'exode rural, en permettant aux gens des campagnes de rester, d'accéder à la ville, de revenir, d'aller faire transporter les produits de leur marché ou de leur culture, par exemple, au marché urbain voisin. Et donc, a joué un rôle extrêmement important en tant que vecteur d'aménagement du territoire et aussi d'homogénéisation de tout l'espace français.
Est-ce que la Seconde Guerre mondiale, c'est beaucoup de destruction, bombardements, etc., de gares, de voies?
Oui, le réseau français a eu subi des destructions dans les deux guerres, d'ailleurs la Première Guerre mondiale, oui. Surtout des destructions dans le nord et dans l'est, voilà. bien sûr, ouais. Et notamment les gares proches des lignes de front, et d'ailleurs une période de reconstruction a suivi dans les années 20-30 avec beaucoup de gares assez pittoresques, d'un style régionaliste, assez affirmé, des matériaux locaux, enfin l'idée de reconstituer les villes détruites et les régions détruites a prévalu. Seconde Guerre mondiale, c'est un peu différent, beaucoup de destructions dues essentiellement aux bombardements aériens, alliés d'ailleurs, dans l'Ouest, Saint-Nazaire par exemple, Nantes, et puis même Belfort, Besançon, bon, donc un peu sur l'ensemble du territoire, donc parce que les gares étaient visées, surtout les réseaux de transit, de fret, d'aiguillage, etc. Et donc beaucoup de destructions, bon, qui ont été reconstruites, avec une reconstruction d'ailleurs dans les années 50, qui s'est faite d'un mode un peu différent des années 1920, avec plutôt de modernisme architectural et puis une évolution des fonctions de la gare. On évolue aussi dans la gare, dans la pratique du chemin de fer. Au début du 20e siècle, et ça va s'affirmer après, par rapport à ce qu'on faisait, comment ça se passait au 19e. Au 19e, on prenait le train comme aujourd'hui on prend l'avion. C'est-à-dire qu'on arrivait avec ses gros bagages, on avait beaucoup de bagages, on les déposait, on enregistrait ses bagages, ensuite on était dirigé vers une salle d'attente, trois classes de salle d'attente, enfermé dans la salle d'attente, et on vous ouvrait les portes de la salle d'attente que quand le train était en gare, prêt à embarquer. Un mode très différent d'Angleterre où on pouvait attendre sur le quai, c'est beaucoup plus libéral. Et on s'est mis à ça plutôt dans le XXe siècle en France. Et ce qui a engendré aussi une diminution d'une part des salles d'attente et du service des bagages. Puisqu'on s'est mis à voyager avec des bagages un peu plus légers que les malles qu'on transportait au XIXe siècle. Et donc beaucoup de gares se transforment dans les années 50, se modernisent, prennent un aspect aussi différent en termes de matériaux utilisés. On voit de l'inox, on voit des grandes surfaces vitrées qui apparaissent aussi. On voit une expression très très moderne des espaces qui étaient en fait restés un peu dans leur jus. Parfois assez brutal, on baisse les plafonds pour faire des faux plafonds à 2,50 m au lieu d'avoir des grandes nefs comme on l'avait, des grandes halls vitrés comme on les avait au 19e siècle. Bon, on dénature un peu les gares et le TGV, lui, va engendrer une nouvelle architecture des gares. C'est ça qui est intéressant, c'est que les architectes qui ont d'ailleurs été à la manœuvre, hein, Jean-Marie Dutilleul et son compère Étienne Tricot, vont proposer assez vite, dès les premières lignes de TGV, d'avoir une architecture qui reflète l'idée d'une part de la vitesse et puis une certaine connivence aussi avec les lieux desservis, par exemple à l'ouest, on va mettre des architectures textiles un peu pour évoquer les voiles, et puis avec en parallèle une rénovation des gares qui s'opère, beaucoup de gares transformées, réhabilitées dans leur intégrité patrimoniale, et donc il y a un double effort, et puis sur une nouvelle conception de la gare aussi qui apparaît, notamment par la conception même du TGV, qui évite les centres-villes, à part Paris, Lyon, Marseille, des grandes gares terminus, ou Bordeaux par exemple, ou Strasbourg, mais entre-temps, elle évite les villes, pour gagner un peu de temps, pour pas évidemment avoir un ralentissement à l'entrée des bourgades de traversée. Et donc des gares qui se construisent en fait à l'extérieur des agglomérations, des grands parkings autour, et qui desservent en fait non pas seulement la ville voisine, comme Avignon ou Aix par exemple, en Provence, mais qui desservent en fait un grand territoire autour, accessible du coup par la voiture, d'une complémentarité entre la route et le rail qui se dessine dans ces nouvelles gares TGV.
Et dont on pouvait se demander s'ils allaient devenir un pôle de développement urbain, un nouveau pôle de développement urbain, soit agrandissant la ville qui était proche, soit à la confluence de certaines autres villes, etc., etc. Ce qui est peut-être moins vrai avec l'idée de la non-artificialisation des sols aujourd'hui.
On a un instant cru, mais on est assez vite revenu là-dessus, que la gare, justement, pouvait être, en Rascampagne, implantée avec son parking, pouvait être un pôle de développement. L'amorce, en fait, d'un quartier, en quelque sorte. Il y a un exemple assez connu, le Creusot. Le Creusot, c'est une heure de Paris, en train. C'est tout proche, ça. C'est presque comme Melun, d'une certaine manière. Grand parking, peut-être deux entreprises qui se sont installées depuis 40 ans que la gare s'est construite. Et donc, en fait, on voit que la gare n'est pas du tout suffisante pour amorcer un développement urbain. Par contre, quand la ville existe, quand autour une infrastructure urbaine existe, bien sûr, d'emploi, de logement, etc. Oui, alors ça, c'est un catalyseur de développement. Et aujourd'hui, on a compris que, comme les aéroports, d'ailleurs, n'ont jamais été des pôles de développement, là, à cause des nuisances sonores générées, bien sûr, mais ça ne suffit pas pour faire une ville que d'avoir une gare, même si elle est proche de Paris ou proche d'une grande agglomération.
Au fond, le phénomène a peut-être été inverse, c'est-à-dire c'est quand les villes se sont énormément étendues qu'elles se sont rapprochées des aéroports ou qu'elles se sont rapprochées de phénomènes dans les hyperlieux comme, comme dirait Michel Lussault, mais qui n'étaient pas suffisants en eux-mêmes pour déclencher le phénomène urbain, pour être le déclencheur du phénomène urbain. C'est plutôt l'étalement de la ville.
Oui, il ne faut pas oublier que toutes les gares ont été construites, en fait, à l'extérieur des villes, ou à la limite des villes, y compris à Paris, d'ailleurs. C'était vraiment, les gares venaient au contact, en quelque sorte, dans l'ancienne limite de Paris, l'ancienne limite de 1860, dans laquelle on vit toujours aujourd'hui, mais même dans les autres grandes villes, les gares sont juste à la limite, et souvent parce que les fortifications avaient été déclassées, et donc les gares sont venues se mettre juste à côté, ou juste à l'intérieur des fortifications. Les villes ont grandi. Et aujourd'hui, les gares qui étaient périphériques nous paraissent, bien sûr, très centrales. En particulier à Paris, mais même dans toutes les grandes villes, la gare est aujourd'hui, la grande gare est en plein centre. Parce que les villes, tout simplement, se sont étendues et l'urbanisation a rattrapé, en quelque sorte, le chemin de fer, mais qui a bénéficié, justement, de cet effet. Parce que pour le chemin de fer, l'enjeu est aussi d'attirer du public, de séduire, d'offrir une commodité. Et quand on est proche d'un centre-ville, et bien sûr, l'accès à la gare est rendu plus facile, y compris par les transports publics.
Merci Bertrand. Vraiment, on peut pas en rester là. Et je crois qu'il faut qu'on retrouve le moyen de faire une autre émission pour parler un peu, peut-être pour entrer dans la gare, après tout.
Les rendez-vous de Bernard Roth, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.